France Inter.
Vous savez comment il arrive le gaz jusqu'à chez vous?
Il passe par la chaudière.
Depuis la Suisse, il y a un super long tube. Oui.
Il arrive. Aucune idée.
Et il vient de quel pays, votre gaz?
Ça, j'en sais rien du tout. Depuis qu'ils ont coupé avec les Russes. Donc c'est un peu... c'est un peu de partout. C'est un mélange.
Le gaz, matière plus que jamais précieuse, est pourtant largement méconnue. Comment arrive-t-il jusque dans nos foyers ou nos entreprises? En provenance de quel pays? Comment est-il transporté ou stocké?
Eh bien, je pense qu'il est stocké dans C'est une bonne question.
Avec d'un côté la guerre en Ukraine et de l'autre la rigueur hivernale, l'approvisionnement de notre pays en gaz est un enjeu essentiel. Pour se chauffer, pour produire de l'électricité ou comme carburant pour certains types de véhicules. Depuis que la Russie a fermé ses robinets, il faut trouver de nouveaux pays fournisseurs capables de répondre aux besoins grandissants d'une Europe dépendante, non sans conséquences sur nos relations diplomatiques.
Il y a du gaz en Iran, il y a du gaz au Qatar, il y a du gaz en Algérie, en Afrique du Nord d'une façon générale. Mais à chaque fois, il y a des effets stratégiques. La Méditerranée orientale, c'est toute la question de l'attribution des champs gaziers autour de Chypre et de la relation avec la Turquie. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire par la suite ?
Alternative au charbon, le gaz est désormais convoité partout dans le monde. Ce qui a fait exploser ses prix sur le marché jusqu'à plus 170% en à peine un an et demi. Autrefois exclusivement géré par l'État, à travers GDF, le marché du gaz est depuis 2007 libéralisé et donc ouvert à la concurrence. De son achat à son stockage, en passant par son transport, de nombreux intermédiaires s'occupent aujourd'hui de l'acheminer jusqu'à nos portes.
Nous, notre métier, c'est de fournir à nos clients cette capacité de stockage. Donc le gaz ne nous appartient pas. Nous, ce que nous fournissons, c'est le volume et le service qui consiste à le stocker pendant l'été et puis le rendre pendant l'hiver quand nos clients en ont besoin.
Pour faire face aux pics de froid, ces flux de gaz sont gérés en temps réel par des opérateurs comme GRT Gaz. Ils le conduisent d'un bout à l'autre de la France grâce à des dizaines de milliers de kilomètres de tuyaux enfouis sous terre. C'est dans l'un de ses principaux centres, ultra sécurisé et dont la localisation est secrète, que l'on retrouve Martine Abbat qui signe ce reportage du gisement à nos chaudières, les très convoitées routes du gaz.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Ok, sur le rond vert.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Ouais, allez-y. Alors, du coup, moi je vais rentrer.
Ah oui, d'accord.
Vous attendez.
Ok, d'accord. C'est comme à la Banque de France. Je prends ce qu'on m'a dit. Donc vous m'emmenez où là?
Donc là on va au dispatching national de GRT Gaz. C'est l'endroit où on pilote les flux de gaz naturel en France. C'est un peu la tour de contrôle du réseau de transport. Je suis Benoît Pouzieux, je suis directeur système gaz de GRT Gaz. Donc j'ai un périmètre qui inclut le dispatching national dans lequel on est aujourd'hui. Le dispatching, effectivement, en anglais, ça veut dire répartir, distribuer, orienter. Donc effectivement, c'est l'endroit où on oriente l'ensemble des flux de gaz. On accueille le gaz qui vient des pays frontaliers, on l'oriente, on le transporte, on le pousse vers les lieux de consommation en France ou vers l'Allemagne, la Belgique, la Suisse.
Donc on voit une carte de France avec effectivement des chiffres tout autour de
exactement,
frontières.
Exactement.
Des chiffres qui changent constamment. Donc c'est ce qui rentre et ce qui sort.
Exactement, ouais, c'est ça.
Donc vous avez de grands écrans devant vous avec tous les canaux finalement que vous gérez, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Donc j'ai de ce synoptique.
Donc vous traitez énormément de données ici.
Ici, alors L'ordre de grandeur, c'est à peu près 30 millions de données par jour, effectivement, qui circulent dans les dispatchings. Alors, différentes données, hein, données de comptage, mais données sur les caractéristiques du gaz, son pouvoir calorifique, les pressions, les débits, le niveau d'odorisation du gaz.
Parce que c'est vous qui donnez l'odeur au gaz à l'entrée
Alors, effectivement, en France, on odorise le gaz aux bornes du territoire quand on le reçoit, soit en sortie des terminaux méthaniers, ou soit en provenance, par exemple, de Norvège. Le gaz naturel n'a pas d'odeur. On rajoute un odorant pour que, effectivement, quand il va être ensuite distribué dans les villes jusque à votre casinière, qu'en cas de fuite dans un appartement, voilà, on puisse détecter cette fuite par une odeur qu'on a ajoutée dans le gaz. Donc, effectivement, c'est le rôle de GRT Gaz que d'odoriser le gaz, tout le gaz qui est consommé et transporté en France. On pilote tout ça à distance. On télécommande l'ensemble de ces installations sur l'ensemble du territoire. D'ici, à distance, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le chargé de programmation et en cours de journée, le superviseur va mettre à jour les flux. Il va regarder les routes possibles du gaz dans ce réseau trémaillé et va déterminer la route la moins coûteuse, celle qui amène à démarrer le moins de compresseurs possible.
Ah oui, la plus directe finalement.
La plus directe et la moins onéreuse parce que c'est des installations qui sont relativement coûteuses, donc on essaie de les minimiser au plus. Nos coûts sont régulés et on essaie effectivement que notre service soit le moins cher pour ceux qui l'utilisent et pour ceux qui in fine le paieront via leur consommation.
On va aller le voir, Mathieu.
Donc Mathieu, effectivement, dispatcher réseau national, donc lui, il a vraiment le titre de dispatcher. Donc effectivement, Mathieu, c'est lui, le seul d'ailleurs dans le dispatching ici, qui télécommande toutes les installations de GRT Gaz partout sur le territoire français.
Et puis, donc là, si je peux décrire, il a un bureau avec 5 écrans. Avec votre souris, vous pouvez actionner toutes ces installations.
Voilà. Et effectivement, les 3 écrans centraux sont liés au système de pilotage. Donc là, par exemple, on est sur la région donc, Centre-Atlantique, qui actuellement nous envoie une grande quantité de gaz. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en œuvre les moyens nécessaires, donc les compressions, et connecter les artères afin de réceptionner tout ce gaz. Donc nous, comme vous voyez, on est en temps réel, toujours en liaison téléphonique avec les sites régionaux, afin de contrôler les paramètres. Excusez-moi, je dois prendre l'appel. Parce que c'est important. Mathieu Dispatching, bonjour. Ouais, j'ai oublié d'avoir me passer. Ok, ça marche, merci. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est ça. Donc en fait, on met en route les compresseurs, c'est les accélérateurs, afin de tirer le gaz et de le répartir ensuite sur l'ensemble du réseau. Donc nous, on pilote simultanément toute la France, en fait. On a la vue sur l'ensemble des stations de compression, d'interconnexion, pour avoir les quantités de gaz suffisantes pour alimenter les clients. Et on contrôle également en temps réel la qualité gaz.
Qu'est-ce qu'on voit là sur l'écran? C'est des vannes?
Exactement. C'est un mini-schéma d'une interconnexion. On parle de la station de Chéret qui se retrouve au Mans et qui est connectée au site de Chémery et qui renvoie le gaz sur Paris. Parce que comprimer le gaz apporte un coût. Et donc moi, j'adapte l'interconnexion afin de pouvoir économiser un compresseur de gaz par rapport aux conditions du réseau maintenant.
L'action, elle est immédiate?
Donc nous, on envoie. Ça sera fait dans la dizaine de minutes. Enfin, c'est lentement et rapide à la fois.
C'est rapide.
Voilà.
Ouais.
Philippe Madiec, je suis directeur de la stratégie et de la régulation chez GRT Gaz. Alors, transporter le gaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des clients qui nous confient leur gaz à un endroit donné et on transporte ces molécules de gaz jusqu'aux clients qui le consomment. On prend le gaz, nous, à l'entrée du territoire français. Et on l'amène jusqu'à l'entrée des villes, mais aussi jusqu'à des gros clients industriels qui, eux, ont besoin de beaucoup de pression, de puissance. Et puis, on trouve aussi tout ce qui est de la production centralisée d'électricité, puisque en France, une partie de l'électricité est produite à partir du gaz, à hauteur à peu près de 6 gigawatts sur les 110 gigawatts disponibles en électricité. En revanche, c'est bien à nos clients d'apporter le gaz. Nous, on ne détient pas le gaz, on ne fait que mettre à disposition de ces clients de la capacité dans nos tuyaux et puis de faire en sorte que la molécule passe dans nos tuyaux.
C'est finalement une histoire de tuyaux, c'est vous qui gérez ces canalisations.
C'est absolument une histoire de canalisation en ce qui nous concerne et de compresseur, puisqu'il faut pouvoir pousser ce gaz dans le tuyau pour qu'il avance. Et donc nous, effectivement, notre métier, c'est de gérer le gaz qui est dans les tuyaux.
Donc ça veut dire que partout en France, il y a un maillage de canalisation.
Alors absolument, on a 32 000 km de réseau en ce qui concerne Gertégaz, un peu plus avec l'autre opérateur de transport.
C'est Terega, l'autre opérateur.
On tourne aux alentours d'une quarantaine de mille kilomètres de réseau. Donc partout en France, alors c'est une infrastructure très puissante qui est très sécurisée, évidemment, très sûre, et qui a l'avantage d'être très discrète.
Elle est enterrée,
sur le territoire. Les auditeurs pourront le voir grâce au petit chapeau jaune qu'on voit de temps en temps au bord des routes. Voilà, c'est en dessous, quelque part en dessous, il y a une canalisation de transport de gaz ou de distribution d'ailleurs.
Ils sont gros en diamètre ?
Alors les tuyaux qu'on a, les autoroutes, c'est à peu près 1 mètre de diamètre, entre 800 et 1 mètre de diamètre, 800 mm. Et puis ça va jusqu'à des tuyaux de l'ordre de 40 cm de diamètre.
Et d'ailleurs, ils sont connectés aux autres pays limitrophes.
Alors évidemment, comme le gaz est largement importé, le réseau de Gertégaz est connecté à la Norvège, est connecté à la Belgique, est connecté à l'Allemagne, est connecté à la Suisse, donc à l'Italie, et est connecté à l'Espagne. Et on a aussi une connexion à 4 terminaux méthaniers, qui est une capacité d'amener aussi du gaz sous forme liquéfiée, qui vient des pays assez lointains et qui permet des points d'entrée sur le territoire national.
Donc il y a énormément de compteurs tout au long de ces tuyaux que vous
Il y a beaucoup de compteurs, puisqu'en fait, on doit effectivement voir les volumes de gaz qui passent, qui sont des volumes qui appartiennent à nos clients, et on voit aussi la qualité du gaz. Donc il y a aussi des chromatographes, il y a aussi il y a tout un tas d'équipements, et de télésurveillance, et de télécomptage, mais aussi de téléaction sur le réseau.
Donc là, avec cette année qu'on a vécue très particulière pour le gaz, puisque des livraisons de gaz qui venaient de Russie se sont arrêtées, qu'est-ce que ça a changé dans votre activité ?
Alors ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé les flux, puisque nous, c'est ce qu'on regarde chaque jour. Donc on avait des flux historiquement et depuis de nombreuses années qui venaient du nord de la France et de l'est de la France, qui retraçaient peu ou prou les quantités de gaz qui étaient reçues de la Russie en Europe. Et depuis, ça a commencé évidemment au printemps 2022 et ça s'est accentué à l'été avec les baisses de livraison de gaz russe en Europe. Les flux ont commencé à s'inverser. Donc la France est devenue finalement une porte d'entrée du gaz pour l'Europe centrale. Et donc on a accru les livraisons de gaz liquéfié qui viennent plutôt de pays lointains et non soumis à la crise russo-ukrainienne, pour d'abord remplacer le gaz russe en France et puis aussi vers l'Allemagne, vers la Belgique. Donc on a accru les livraisons à partir de GNL qui viennent plutôt sur les façades maritimes, méditerranéennes et atlantiques et manches, pour finalement avoir des flux qui vont de l'ouest vers l'est, alors qu'historiquement on avait plutôt des flux de l'est vers l'ouest. Et donc c'est vrai que toute la filière gazière européenne est mobilisée pour se mettre en position d'amener des solutions pour amener plus de gaz en substitution du gaz russe, effectivement.
Cette filière européenne, ce sont d'abord les grandes compagnies gazières. En France, les entreprises Engie, Total, EDF et bien d'autres encore. Ce sont elles qui achètent le gaz sur les marchés avant de se tourner vers des compagnies de shipping. Ces dernières acheminent le gaz sur de gigantesques navires, les méthaniers. Pour pouvoir le transporter plus facilement et en plus grande quantité, le gaz est passé à l'état liquide, refroidi à moins 162 degrés et stocké dans d'immenses cuves à bord des bateaux. Il devient alors du GNL, du gaz naturel liquéfié. Une des compagnies qui gère ces méthaniers, c'est Gazocéan, basée à Marseille, où on retrouve, aux côtés du directeur général Régis Adnet, notre reporter Martine Abad.
Oui.
Oui, je suis en bas, au 132.
Vous êtes monté sur la dalle derrière ?
Alors, je prends l'escalier, c'est ça ?
Oui, puis vous allez tout droit vers le hall sud.
Hall sud, d'accord. Et c'est indiqué ? Gazocéan ?
Oui, sur la porte.
Très bien, à tout de suite. Bonjour, Martine Abad.
Juste à venir.
Ravie. C'est le siège, c'est ça, de Gazocéan, donc.
Oui.
Où est-ce que vous allez, dans quelle partie du monde vous allez chercher ce GNL ?
Ça peut être en Asie du Sud-Est, l'Indonésie est un producteur important de GNL, l'Australie également, les pays du Golfe, hein, le Qatar, on parle beaucoup du Qatar en ce moment, c'est un des premiers exportateurs de GNL au monde. Et un acteur majeur maintenant dans le GNL, ce sont les États-Unis d'Amérique, hein, qui produisent du gaz naturel à partir de la fracturation hydraulique.
Gaz de schiste.
Des gaz de schiste, oui.
Ensuite, lorsque vous le rapportez, il faut absolument que vous le rapportiez dans des terminaux méthaniers spécifiques, oui, pour accueillir ce GNL.
Oui, oui, oui. En France, nous avons des terminaux méthaniers. Nous avons deux terminaux méthaniers à Fos-sur-Mer, tout près de Marseille. Nous en avons un à Dunkerque et un autre à Montoire-de-Bretagne, près de Nantes, sur la Loire. Bientôt, il y aura un autre terminal méthanier flottant, celui-là, au Havre, fin 2023, puisque c'est la volonté de notre gouvernement d'installer un terminal flottant supplémentaire en France.
Est-ce que depuis la guerre en Ukraine et l'arrêt des livraisons de gaz naturel russe, votre activité a augmenté ?
C'est difficile à dire parce que les navires étaient déjà très occupés. Depuis quelques années, il y a une forte demande en gaz naturel. C'est une énergie qui est en forte demande parce que c'est une alternative au pétrole qui est un peu plus propre que le pétrole. Ça produit moins de suie, c'est quelque chose qui est plus facile à utiliser également. Après, de dire est-ce que la guerre Ukraine-Russie a augmenté le trafic ? Oui, on note qu'il y a une forte demande pour les méthaniers aujourd'hui. Il faut savoir que la flotte de méthaniers entre les années 2010 et aujourd'hui a plus que doublé. Et au niveau mondial, les carnets de commandes sont pleins pour construire ce type de navire parce que il y a eu beaucoup de contrats qui ont été signés. Il y a une demande forte pour enlever ces cargaisons, donc un besoin de navires important. Pas seulement au niveau de l'Europe, c'est mondial. Les derniers navires que nous avons pris, qui sont les six derniers navires, des 174 000 m3 construits dans les chantiers coréens, ces navires sont affrétés pour une durée entre 7 et 10 ans. Donc c'est très long, je dirais par des affréteurs qui ont prévu un plan de charge. Ils disposent d'une flotte de navires comme ça et ils optimisent au maximum ces navires pour limiter les consommations, parce que il faut savoir que ces navires mais consomment de l'énergie. Donc il faut éviter de repositionner les navires à l'autre bout de la planète systématiquement. Donc il faut vraiment utiliser et optimiser au maximum la flotte.
Et alors, ils peuvent aller en Australie en combien de temps depuis la France ?
Ce sont des navires qui marchent en moyenne à 19 nœuds. Donc pour donner une petite idée, 19 nœuds, c'est à peu près 35 km/h. Si on voulait aller en Australie, en moyenne, il faut 3 semaines pour y aller. Ça dépend si on passe par Suez ou l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud.
Oui.
Comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien pouvoir monter sur un méthanier. Pourquoi c'est compliqué, en fait ?
Premièrement, vous avez les questions de sécurité. Les terminaux méthaniers sont des endroits très bien gardés, extrêmement surveillés. On ne laisse pas n'importe qui rentrer sur un terminal méthanier. Et ensuite, il y a des règles d'accès. Sur ces deux dernières années, en plus, on a limité les accès avec les questions de Covid pour éviter de contaminer les équipages. Donc ça, c'est un point important. Généralement, les bateaux, quand ils sont dans les ports, je vous ai dit, ils déchargeaient ou ils chargeaient en 24 heures. Donc c'est un temps assez restreint où tout le monde est mobilisé à bord. C'est toujours un moment assez intense où chacun a une tâche à faire. Tout le monde est extrêmement occupé pendant les opérations cargaison. C'est une des phases critiques au sens où il faut être attentif sur tout. Parce que vous devez contrôler les évaporations de votre navire, vous devez contrôler les aspects de ballast,
de stabilité.
Vous devez contrôler les risques d'incendie ou d'explosion peuvent arriver, on ne sait jamais. Donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Vous avez des détecteurs partout. Vous avez du personnel qui fait des rondes en permanence sur le pont pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de gaz naturel qui se mette à fuir sur le pont, parce que le risque, c'est que ça peut, vu la température, ça peut fracturer l'acier.
Ah, voilà. Le fait qu'il soit extrêmement froid comme
voilà.
Ça.
Voilà. Et donc effectivement, ces phases où vous transférer le produit dans les tuyaux en mouvement, c'est une phase durant laquelle il faut être très attentif. C'est un produit qui contient beaucoup d'énergie et qui est très volatile.
Qui peut la libérer rapidement.
Et qui peut la libérer rapidement.
On peut aller voir sur votre logiciel
Tu peux nous montrer,
bien sûr.
Ouais, on va aller. Donc Pierre Valdez, notre directeur technique. C'est le monsieur, grâce à lui, les bateaux fonctionnent bien. Vous voyez nos bateaux. Aujourd'hui, on en a un en Indonésie. Ça s'appelle l'Andivour. On a le Grace Cosmos qui se dirige vers l'Australie. Il va charger sur un terminal flottant. Et puis, on a le dernier qui est là.
Là, il est au nord de la Jamaïque.
Oui, il revient vers l'Europe, là.
Il revient vers l'Europe, et il était avant... C'est pour l'Indonésie qu'il a chargé. Il a passé Panama.
Donc là, il en a pour une semaine, 10 jours.
À peu près, il faut une petite semaine. C'est des bateaux qui marchent, je dis, à 19 nœuds, donc 35 km/h. En moyenne, il faut 5 jours pour traverser l'Atlantique. Enfin, là, il y va à vitesse éco, parce qu'il a prévu de décharger le 2 décembre.
Le 2 décembre.
Ah, donc il est tranquille.
Il réduit sa vitesse. La fretteur lui a dit, tu consommes pas trop, donc tu réduis ta vitesse, parce qu'on n'aura pas de slot dans le terminal pour décharger avant le 2 décembre. Donc ça sert à rien d'y aller à fond. Il faut optimiser la conso.
C'est-à-dire que... C'est comme à la sécu, il faut attendre son ticket quoi, pour passer.
Ben oui, parce que les terminaux sont pleins. J'ai regardé le terminal de Foss, le gros, là, le Cavaou avec les deux appontements. C'est le gros terminal qu'on voit quand on passe devant. Il est plein de mémoire, c'est jusqu'à 2025. Il n'y aura pas de place pour les 3 prochaines années.
Oui.
D'accord, donc vous, en fait, vous travaillez sur du long terme.
Oui, mais nous, on n'a pas cette information-là. Parce que vous avez un bateau qui peut être affrété par Total, par exemple. Donc Total a ce qu'on appelle des slots, c'est-à-dire des réservations, comme pour les compagnies aériennes.
Des créneaux.
Des créneaux dans un terminal, mais il ne dit pas encore quel bateau va y aller. Nous, on le découvre 2 semaines avant.
Mais lui, il sait.
Pas toujours.
Pas toujours.
Pas toujours. Il sait qu'il doit devoir, dans ce terminal, il a une possibilité de décharger un cargo. Donc il faut qu'il arrange sa flotte de bateaux. Et il sait qu'il peut la décharger là, ou peut-être en Italie, peut-être en Grèce. Bon.
C'est-à-dire, il réserve son créneau,
oui.
Et après, il voit quel bateau va y aller.
Oui, au fur et à mesure. Parce que c'est lui qui paye le carburant hein, pour bouger le bateau. Donc,
et c'est beaucoup d'argent, ce carburant.
C'est beaucoup d'argent. Oui. Mmh. Donc il faut vraiment optimiser le mouvement des bateaux, et l'idéal, c'est qu'il bouge le moins possible. Qu'il transporte le maximum de cargaison, et qu'il fasse le maximum d'enlèvement et de déchargement en bougeant le minimum possible.
Vous savez, je vais vous dire les choses très simplement. Pour pouvoir limiter ou avoir une bonne visibilité du prix de l'énergie en particulier, et surtout du prix du gaz, il faut 2 choses.
Thierry Breton.
Il faut du volume, il faut de la durée.
France Inter, 16 décembre 2022.
Il faut acheter à long terme, de façon garantie, et pour pouvoir mieux peser...
Mais nous, on dit qu'on veut sortir du gaz. Comment est-ce qu'on peut acheter à long terme?
On sort du gaz en 2050. Maintenant, il y a le deuxième point. C'est qu'à partir du moment où tout le monde veut acheter du gaz en même temps pour remplir ses cuves, par exemple, pour passer l'hiver prochain, on risque de voir à nouveau une volatilité très forte sur les marchés. Donc là, il faut dire de façon très claire à ceux qui nous vendent le gaz, il y a un niveau auquel on n'ira pas.
La principale alternative envisagée par la France et l'Europe pour compenser la perte de gaz russe et pallier l'urgence d'approvisionnement pour cet hiver, eh bien, ça a été de se ruer vers le GNL. Alors tout l'été, les rotations des bateaux, on l'a vu, se sont intensifiées pour atteindre un niveau record d'importation de GNL en France, qui est désormais la principale porte d'entrée en Europe. On estime aussi que la part du GNL américain dans les importations totales de gaz, cette part est désormais montée à 38%. Or, ce GNL américain, eh bien, il est issu en majorité de la fracturation hydraulique, qui est une véritable catastrophe pour l'environnement. Donc ces choix énergétiques, eh bien, ils nous bloquent dans un modèle fossile, à l'heure où il faudrait envisager la transition énergétique. Et donc il fait débat, ce choix, et il est dénoncé notamment par l'association Les Amis de la Terre.
Bonjour.
Bonjour.
Annalina.
Oui.
Merci de m'accueillir. Hop. Donc je suis Annalena Rebaud et je suis chargée de campagne aux Amis de la Terre France.
Quelle est l'empreinte carbone du GNL par rapport au gaz naturel? Est-ce qu'on connaît ce chiffre?
La différence entre le gaz naturel liquéfié et du gaz transporté par voie gazeuse, c'est que le gaz naturel liquéfié, donc, il faut le liquéfier. Et le liquéfier, ça demande énormément d'énergie. Par ailleurs, il faut le regazéifier derrière, ce qui fait que il y a des études qui ont estimé que par rapport à du gaz naturel classique transporté par gazoduc, le gaz naturel liquéfié, ça émet 20% d'émissions supplémentaires. En fait, ça émet plus, pas seulement par le procédé de liquéfaction et de regazéification, c'est aussi que du coup, on le transporte sur de plus longues distances. Et ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les fuites de méthane. En fait, le gaz, c'est souvent présenté comme une énergie plus propre que le fioul ou le charbon, parce qu'au moment où on le brûle, ça émet moins de gaz à effet de serre, ça émet moins de CO2. Mais en fait, le gaz, c'est composé majoritairement de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Or, quand on le transporte sur de longues distances, ce méthane, il a tendance à fuir. Il fuit au moment de l'extraction, il fuit au moment du transport, du stockage, et c'est ça qui fait que le gaz, au final, n'est pas une énergie plus propre que le pétrole ou le charbon, et qui en réalité est extrêmement grave et accélère encore le réchauffement climatique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les fuites de méthane liées au secteur énergétique sont sous-estimées de 70%. Et la fracturation hydraulique, c'est une méthode d'extraction du gaz qui a été interdite en France depuis 2011. Donc il y a une forme d'hypocrisie aussi à aller se servir aux États-Unis avec des communautés fortement impactées, et notamment des communautés autochtones, pendant qu'en France, on profite d'un environnement un peu plus sain. On est en train de développer énormément d'infrastructures d'importation de gaz naturel liquéfié, à l'heure où on devrait être en train de penser à des solutions structurelles de long terme. Ça nous verrouille dans la consommation parce que ce sont des investissements qu'il faut rentabiliser pour les entreprises qui les ont faites, premièrement. Et deuxièmement, les importations de gaz naturel liquéfié, elles sont liées à des contrats de long terme. On sait par exemple que Engie a récemment conclu deux contrats, un sur 15 ans, l'autre sur 11 ans. En fait, quand on augmente les importations de gaz naturel liquéfié, on sait que mécaniquement, on incite à l'ouverture de nouveaux champs gaziers et nouveaux champs pétroliers. Or, l'Agence internationale de l'énergie est extrêmement claire sur ce point. Si on veut avoir une chance de maintenir le dérèglement climatique sous les 1,5 degrés, en fait, on devrait déjà être en train de réduire la production.
Mais en même temps, là, j'imagine, on a répondu à une urgence, qui est qu'on a tous besoin de se chauffer et de faire chauffer notre eau, notre marmite.
Oui, bien sûr. Mais en fait, si on n'anticipe pas les changements qu'on sait arriver et qu'on continue à investir dans la consommation de gaz, on s'enferme aussi dans ce schéma de dépendance aux énergies fossiles qui fait que dès qu'il y aura une crise, on va être dans un moment de réaction d'urgence où du coup, on va chercher à pallier aux problèmes d'approvisionnement par de nouveaux approvisionnements. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Là, oui, il y a urgence à ce que toutes les personnes puissent se chauffer et s'éclairer comme ils en ont besoin. Mais il faut anticiper les choses pour qu'à l'avenir, on ne se retrouve plus dans cette situation et donner accès à toutes et à tous à une énergie abordable. Vraiment, la première solution, c'est de réduire drastiquement notre consommation énergétique. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les énergies fossiles, on les utilise pour énormément de choses. Et là aussi, il y a des usages qu'on peut repenser. Par exemple, on sait qu'il y a 8% de la consommation de gaz française qui va à la fabrication de plastique. On utilise aussi beaucoup de gaz pour fabriquer des engrais azotés utilisés dans un modèle agro-industriel qui a énormément d'impacts environnementaux et climatiques. Il faut repenser entièrement le système agricole dans lequel on est. Et donc, quand on parle de réduire la consommation des énergies fossiles, c'est en fait repenser entièrement le système dans lequel on est, de façon à le rendre soutenable, en permettant de donner accès à une énergie abordable pour toutes et tous. En fait, si il y a la volonté politique et si les investissements vont dans le sens des solutions durables et non pas d'emparier toujours plus d'argent pour payer plus de gaz, on pourrait sortir de cette crise d'une façon durable et éviter qu'elle se répète à l'avenir, quoi.
Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait des mois qu'on se prépare avec mon gouvernement,
Elisabeth Borne,
pour éviter de devoir faire des coupures.
France Inter, septembre 2022.
Si on baisse notre consommation de gaz de 10%, alors il n'y aura pas de restrictions. Donc ça montre que c'est quelque chose qui peut être à notre portée. Nos stocks, avant la fin de l'été, seront remplis à 100%. On a augmenté les capacités de nos terminaux méthaniers qui nous permettent d'importer du gaz naturel liquéfié. On a diversifié nos sources d'approvisionnement. Donc on fait le maximum pour qu'il n'y ait pas effectivement de restrictions cet hiver.
En achetant à prix d'or le gaz, les pays européens évitent toute pénurie sur leur continent. Mais ils bouleversent aussi le marché international en faisant exploser les prix. En conséquence, de nombreux pays dépendants du GNL pour produire leur électricité ne parviennent plus à s'aligner et sont obligés de couper le courant à leur population, comme en Inde ou au Pakistan. En France, peu de risques cet hiver, d'autant que les stocks ont été remplis depuis des mois. Deux entreprises privées les gèrent, l'une d'elles, Storengie, à Saint-Hilier-la-Ville, dans les Yvelines, où s'est rendue Martine Abatte.
Interception sur France Inter.
Bonjour,
bonjour madame.
Je suis Martine Abatte, j'ai rendez-vous de la radio.
Ah d'accord.
Ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr.
Vous avez besoin de...
Voilà, vous avez un badge.
Merci.
Et là, vous avez la consigne de sécurité pour les connaissances. Le rond-point de rassemblement, il est là, juste en face, en cas d'alerte. Vous retrouvez là pour le rassemblement. Faut partir et c'est là qu'on fait l'appel pour savoir si on a bien quitté le lieu ou pas.
Si tout le monde est là.
Si tout le monde est là. Donc il y a monsieur Courtais, le directeur général, qui vient vous chercher.
Très bien. Merci, okay. Monsieur. Bonne journée.
Bonne journée.
Orange propose à ses clients, partout dans le monde, des solutions innovantes de stockage d'énergie. Stocker l'énergie est en effet un enjeu majeur pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables dans le contexte d'un mix décarboné. Grâce à son expertise et à ses nombreux stockages souterrains, Storengy dispose d'atouts majeurs pour produire puis stocker de l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable. C'est le Power to Gas.
Bonjour monsieur, il faut que je badge.
Non, alors présentez-vous, il va vous ouvrir. Allez-y, poussez.
Bonjour monsieur.
Enchanté, bienvenue. Jérôme Courtais, le responsable du site. Bienvenue à Saint-Hilier.
C'est gentil.
Je vous en prie. Vous avez trouvé facilement ?
Très bien, oui. C'est au milieu de rien.
En pleine campagne, environnement naturel, installation industrielle qui s'intègre dans le paysage. Venez, c'est par ici.
Donc avant la guerre en Ukraine, on n'était pas du tout habitué à communiquer vers l'externe, parce qu'en réalité, c'est un métier souterrain, donc c'est nouveau pour nous aussi.
De communiquer.
De faire l'objet d'une attention médiatique de cette nature, c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour les équipes. Et ça renforce leur fierté, évidemment, donc ça a aussi une vertu, et y compris pour nous en interne. Mais c'est quand même relativement nouveau, on n'a pas l'habitude, on est un métier du sous-sol.
Métier caché.
D'être caché, voilà, exactement.
Et vous, donc Camille Bonenfant-Jeannet, votre titre, c'est quoi exactement ?
Moi, je suis directrice générale de Storengy, c'est-à-dire la société qui opère les stockages pour le groupe Engie dans 3 pays. En France, qui est notre principal pays d'exploitation, on a 14 sites de stockage, mais aussi en Allemagne et au Royaume-Uni.
Les autoroutes du gaz nous amènent le gaz jusqu'au stockage. Ensuite, on injecte dans le sous-sol. Alors, quand, le terme injecté, ça veut dire qu'on pousse le gaz dans une bulle, dans un nappe aquifère. Et puis, on ressort ce gaz-là à la demande des clients pour le remettre, après un process de traitement, sur les autoroutes du gaz.
Et quand vous dites nappe aquifère, c'était une nappe qui contenait autrefois de l'eau ?
Alors, elle contient toujours de l'eau. C'est-à-dire que quand on injecte le gaz dans le sous-sol, le gaz pousse l'eau. La pousse de son endroit où elle est stockée dans des roches poreuses et perméables. Donc ça prend la place de l'eau. Et une fois qu'on retire le gaz, l'eau reprend sa place naturellement dans la roche. Et donc, une fois qu'on ressort le gaz du sous-sol, l'eau va reprendre sa place.
Le site de Saint-Hilier, il fait combien de mètres cubes, la cavité souterraine ?
Alors, le stockage en lui-même, quand il est plein, il fait 1 milliard 500 millions de mètres cubes de gaz.
C'est la consommation de combien d'habitants pendant une année ?
Alors, ça représente, on est plutôt sur 45% de la consommation des particuliers sur la région parisienne.
On y va.
Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant ?
L'idée, c'est maintenant de vous emmener visiter le site de stockage pour que vous puissiez voir à la fois notre salle de contrôle et puis les installations de surface et que vous puissiez aussi avoir un échange avec nos équipes sur leurs activités du quotidien.
Je vais être votre guide pour la fin de matinée. Donc je suis Edouard, donc je suis gazier depuis 23 ans et à Saint-Hilier, à Storengy, depuis 7 ans, responsable d'équipe conduite et exploitation. Ça fait partie de la grande famille des gaziers.
De ceux qui gèrent le gaz.
De ceux qui gèrent le gaz.
Ouais, c'est parti.
Allons-y.
Ici, vous avez ce qu'on appelle une tête de puits. C'est-à-dire, c'est la petite installation de surface. Donc, dessous, vous avez un petit tube d'environ 10 cm de diamètre qui descend jusqu'au réservoir. Et donc, vous voyez en surface, finalement, c'est une toute petite installation par rapport au volume souterrain.
Qui est énorme.
Qui, lui, est énorme, exactement.
Tout est enterré, tout est sous vos pieds. Il y a des tuyaux partout qui passent sous vos pieds. Les 3 tuyaux principaux, ils sont là-haut. Ils arrivent d'en haut et après, ça c'est tous les jeux de vannes qui nous permettent de faire les différentes configurations de transit, de soutirage et d'injection.
C'est vrai que plus que des tuyaux, ce sont des vannes.
Il y a des vannes partout. De vannes. Voilà, c'est un champ de vannes. Voilà.
Typiquement, on est sur un organe de comptage transactionnel, non ? C'est ça, Edouard ?
C'est là qu'on compte.
Transactionnel, c'est là qu'on compte le gaz qui sort ou qui rentre dans notre réservoir.
C'est un compteur.
Un compteur.
Un compteur à gaz, mais...
Exactement. Énorme, qui est capable de compter jusqu'à 700 000 mètres cubes alors.
C'est-à-dire c'est le gaz qui appartient à vos clients et que vous devez leur rendre.
C'est ça.
Bon voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Ça reste assez simple.
Et est-ce qu'on peut aller réparer ces tuyaux qui descendent si profondément ? Comment on fait pour
alors,
les réparer ?
Oui, Notamment, nous avons une équipe spécialisée qui s'appelle le GIP, le groupe d'intervention sur puits, pour aller faire toutes les opérations de maintenance qu'on est obligé de faire dans ces tuyaux, puisqu'il y a des vannes, il y a des filtres et tout ça, on est obligé de les entretenir, donc on est obligé d'aller s'assurer qu'ils fonctionnent, et quand il y a des dysfonctionnements, de les réparer.
Mais on ne peut pas descendre au fond.
Et alors, c'est ce qu'on appelle du travail au câble, c'est-à-dire que vous avez un opérateur qui va manœuvrer via un fil, qui va descendre jusqu'au fond du puits, donc jusqu'à 1200 mètres. Il n'y a pas de caméra, il ne voit rien, mais son expérience fait qu'il sait exactement où il est et qu'est-ce qu'il peut manœuvrer avec des outils qui sont au bout de ce câble.
C'est-à-dire qu'il travaille à l'aveugle.
Et oui. Oui, en quelque sorte, oui, il travaille à l'aveugle.
C'est toute la beauté du sous-sol.
Voilà. Vous voyez, typiquement, le camion là-bas avec le sas qui est levé, eh ben, il y a une opération de maintenance sur puits, donc c'est-à-dire qu'il y a un outil qui est à l'intérieur du puits. Là. Et donc on a une unité wireline avec une équipe qui travaille sur le puits.
Et qui travaille à quelle profondeur là-bas ?
On est à 300 mètres. Là.
Notre activité principale vise à stocker le gaz dans des cavités souterraines à quelques centaines de mètres sous terre. Et finalement, dans notre métier, nous avons deux saisons. Nous avons ce qu'on appelle l'été gazier et l'hiver gazier. La France est approvisionnée en gaz à travers des terminaux méthaniers ou des gazoducs de manière continue tout au long de l'année. Et souvent l'été, la consommation de gaz, notamment pour le chauffage, est nettement moindre que l'hiver. Et donc on reçoit plus de gaz qu'on en consomme. L'écart, on le stocke dans nos stockages de façon à ce que l'hiver, quand on a au contraire besoin de plus de consommation, on puisse sortir le gaz de ces stockages et les fournir à nos clients. En période normale, hors période de guerre qu'on connaît aujourd'hui, en été la demande est moindre et donc les prix sont plus bas. En hiver, la demande est plus élevée et les prix sont plus hauts. Ce qui permet d'ailleurs à nos clients d'avoir un intérêt à stocker le gaz l'été et à le ressortir l'hiver et d'assurer ainsi des prix fiables pour les clients.
Mais donc vous louez des espaces ?
Exactement. Donc nous, notre métier, c'est de fournir à nos clients cette capacité de stockage. On peut se dire que finalement, on a le fonctionnement d'un ballon de baudruche, par exemple. Donc nous, on a une capacité. Pendant l'été, il se remplit. Pendant l'hiver, on le rend à nos clients. Donc le gaz ne nous appartient pas. Nous, ce que nous fournissons, c'est la capacité de stockage, le volume et le service qui consiste à le stocker pendant l'été et puis le rendre pendant l'hiver quand nos clients en ont besoin.
Est-ce que vous, au cours de l'année 2022, donc ce problème du gaz s'est posé de manière plus aiguë, est-ce que votre activité, elle a été changée ? Parce que j'ai l'impression que les tensions sur le marché du gaz, elles étaient déjà antérieures à cette guerre. Est-ce que c'est vrai, ça ?
Alors, c'est exact. En fait, on a commencé l'hiver gazier 2021, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, avec, au niveau européen, des stockages de gaz avec particulièrement peu remplis. Et c'était en particulier le cas en Allemagne et dans certains pays de l'Est.
Et pourquoi ?
Alors, il y avait notamment, du côté de l'Allemagne, un certain nombre de capacités de stockage qui étaient détenues par des entreprises russes et qui étaient particulièrement peu remplies. Il est probable que c'était intentionnel.
Maintenant, c'est-à-dire que les entreprises russes ne remplissaient pas leur stock, c'est ça ?
C'est ce qu'on a constaté. Après, nous n'opérons pas ces stockages en Allemagne. Et donc là, on avait les mêmes informations que les informations publiques. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté dans les niveaux de stockage qui sont suivis au niveau européen de manière consolidée. En revanche, en France, même au début de l'hiver gazier 2021-2022, on avait commencé l'hiver avec des stockages qui étaient déjà très bien remplis. La différence cette année, c'est que dans l'ensemble de l'Europe, les stockages étaient très bien remplis en début d'hiver. Et ça, ça a tenu à plusieurs éléments. Donc d'abord, cette attention particulière, et donc on a eu des clients qui sont nos fournisseurs, qui se sont comportés de manière très rationnelle, qui donc ont vraiment profité de l'été pour remplir ces stockages. Et puis le fait qu'il y a eu en Europe des arrivées de GNL, de gaz naturel liquéfié dans les terminaux méthaniers, avec des volumes importants qui ont permis aussi un bon remplissage des stockages.
Le fait que le stockage soit un marché, en fait, ça veut dire que le prix varie et peut monter, et donc au final avoir une influence sur le prix final du gaz.
Alors effectivement, aujourd'hui, le prix des infrastructures et en particulier le prix du stockage représente une part très raisonnable, voire modique, de la facture finale pour le consommateur, estimée à environ 2% de la facture finale du consommateur de gaz. Et finalement, ces 2%, il faut les rapporter à la valeur du stockage pour la sécurité d'approvisionnement. On se rend compte que de disposer de ces infrastructures est une chance pour l'équilibre du système gazier. Donc voilà, rapporter à cette valeur reconnue par le système, a fortiori dans les conditions de la guerre, les 2% sur la facture du client final nous paraissent raisonnables.
Les routes du gaz ne sont pas toujours des routes tranquilles. Et l'acheminement de cette précieuse matière première donne lieu depuis longtemps à des conflits, notamment entre pays producteurs et pays de transit. Jusqu'à, on l'a vu en septembre dernier, le sabotage des gazoducs qui traversaient la mer Baltique. Alors ces conflits, ces incertitudes, cette vulnérabilité aussi des gazoducs, eh bien elle oblige les États européens à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Ces questions énergétiques et stratégiques, c'est l'objet d'études d'Angélique Pal. Elle est géographe et chercheure à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. L'école militaire, c'est une base militaire en plein Paris. C'est là où nous sommes ce matin.
Dans les années 2000, on avait 90% de l'approvisionnement européen en provenance de Russie qui transitait par l'Ukraine. C'était le principal pays de transit. Et au cours des deux dernières décennies, la stratégie russe, ça a été de sortir l'Ukraine de cette équation énergétique en adoptant des stratégies de contournement. Donc il y a eu toute une série de gazoducs, Yamal, le Nord Stream 1, la tentative du South Stream en passant par le Sud, le Nord Stream 2, qui ont eu pour objectif en fait de contourner l'Ukraine. Et au fur et à mesure que ces gazoducs ont été réalisés, eh bien, on a vu diminuer le transit par l'Ukraine. L'objectif russe, clairement, c'était de faire en sorte que l'approvisionnement européen ne dépende pas du passage par l'Ukraine. Il y avait toute une géopolitique du prix du gaz très importante. Et l'Union européenne a vraiment fait le pari pendant très longtemps qu'en fait, les hydrocarbures, c'est une large part du produit national brut russe. Donc cette notion d'interdépendance laissait penser aux Européens que...
Ça allait durer indéfiniment.
Voilà.
Cette crise ukrainienne, finalement, elle n'a fait qu'accélérer un mouvement qui était déjà pris par l'Union européenne de diversifier ses approvisionnements.
L'Union européenne a vraiment basculé vers une stratégie, notamment d'approvisionnement pour cet hiver, en gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, c'est du gaz qu'on transporte par bateau. C'est une technologie relativement récente par rapport à celle des gazoducs. Et elle est intéressante parce qu'elle a complètement décloisonné les marchés du gaz. C'est-à-dire qu'auparavant, on construisait des gazoducs, on avait un marché régional, donc on s'approvisionnait chez ses voisins. Avec le gaz naturel liquéfié, on peut importer du gaz naturel du Qatar, des États-Unis, enfin de partout dans le monde. Donc ça a décloisonné ces marchés. Ce que l'Union européenne essaye de faire, c'est de miser sur cette stratégie de gaz naturel liquéfié pour compenser en partie et puis pour diversifier son approvisionnement. Ça pose deux types de problèmes. Le premier, c'est un marché mondial et puis les infrastructures, elles sont limitées. Et donc, on sait qu'il y a une grosse consommation de gaz naturel liquéfié en Asie du Sud-Est. Et donc, il y a une concurrence internationale sur le gaz aujourd'hui et les infrastructures sont saturées. On ne peut pas importer ou exporter plus que ce qui est fait aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que quand vous mettez du gaz dans un gazoduc, vous savez d'où il part et vous savez d'où il arrive. Lorsque vous mettez du gaz naturel liquéfié dans un bateau, vous pouvez tout à fait décider de changer l'origine du bateau en cours de route. Et les Russes peuvent décider d'avoir des pays intermédiaires et donc de vendre du gaz naturel liquéfié à un pays ami, qui ensuite va le revendre à l'Union européenne en disant que c'est lui qui l'a produit. Et donc, on n'a pas de gaz russe officiellement, mais on a peut-être des molécules de gaz russe qui, elles, arrivent via d'autres destinations.
Alors, qu'est-ce qu'on peut justement dire de cette stratégie de l'Union européenne qui, pour cet hiver 2022-2023, s'est rabattue sur le GNL à tout crin ?
C'est une stratégie de court terme qui était un peu la seule possible pour assurer l'approvisionnement européen cet hiver. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? Est-ce qu'on change de fournisseur gazier ? Il y a des projets vers l'Azerbaïdjan, notamment. Mais tous les fournisseurs gaziers auprès desquels on peut s'approvisionner dans la région ont des effets collatéraux d'un point de vue stratégique. Il y a du gaz en Iran, il y a du gaz au Qatar, il y a du gaz en Algérie, en Afrique du Nord d'une façon générale. Il y en a en Méditerranée orientale. Mais à chaque fois, il y a des effets stratégiques. La Méditerranée orientale, c'est toute la question de l'attribution des champs gaziers autour de Chypre et de la relation avec la Turquie. L'Iran, c'est pareil. Ça implique de régler, entre guillemets, un certain nombre de problèmes auparavant pour qu'il puisse y avoir des investissements étrangers dans les champs gaziers iraniens. L'Azerbaïdjan, on est dans la sphère d'influence russe. Donc, à chaque fois, finalement, qu'on développe un nouveau partenariat, on a des effets stratégiques associés. Et comme c'est des infrastructures qui coûtent très cher et qui sont longues à mettre en place...
Les gazoducs.
Mmh. Eh bien, on se retrouve finalement avec des partenariats stratégiques de long terme qu'il faut anticiper. Je rajoutais juste un petit point qui est qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'indépendance totale sur un plan énergétique. Parce que là, on parle du gaz, mais... si on parle par exemple des énergies renouvelables, en fait les énergies renouvelables, elles sont produites en Europe, mais pour ça il faut des matériaux qui viennent d'ailleurs. Alors il y a du lithium qui vient d'Amérique latine, il y a des terres rares qui viennent de Chine, il y a énormément de matériaux qui viennent d'Afrique. Donc là on se focalise beaucoup sur la question de comment est-ce qu'on peut être indépendant. Mais on ne peut pas être une île énergétique qui produit tout sur place, parce que c'est pas possible dans les configurations mondialisées actuelles. Donc c'est aussi à remettre en contexte finalement, parce qu'on choisit sa dépendance plutôt que finalement de vouloir être indépendant.
Du gisement à nos chaudières, les très convoitées routes du gaz. C'était un reportage de Martine Abbat. Réalisation Charles de Cilia. Mixage Marie Le Peintre. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur le site de France Inter.